Depuis 2019, la Pologne est le théâtre d'un conflit géopolitique orchestré par le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko. Pour déstabiliser l'Europe, il encourage des milliers de candidats à l'exode venus d'Afrique et du Moyen-Orient à transiter par son pays pour entrer sur le territoire européen. Les migrants, livrés à eux-mêmes, se retrouvent contraints d'escalader le mur de 200 km érigé par le gouvernement d'extrême droite polonais en 2021. De l'autre côté, c'est la plus grande forêt primaire d'Europe, marécageuse, sans fin et inhospitalière. Sur ces 300 km² de forêt, se joue une crise humanitaire majeure. Nous nous y sommes plongés pendant un mois, partant à la rencontre de celles et ceux qui tentent de sauver des vies, de ceux qui les traquent, et des migrants eux-mêmes. Vous écoutez Garçons Sauvages, saison 2, dernier passage. Une série de podcasts en 4 épisodes, diffusée par Blast, en partenariat avec Sésame Musique. Deuxième épisode, dans le quotidien des activistes.
On commence à se faire à l'ambiance locale. Un temps humide, brumeux, cette forêt immense, des gens rugueux mais accueillants. On pourrait se croire en Bretagne. Sauf que notre petite visite au mur, la veille, nous a envoyés très très loin des côtes armoricaines, dans un ailleurs glaçant. Après un café à la station-service du coin, littéralement rempli de militaires et de gardes-frontières armés jusqu'aux dents, on se lance dans une balade en voiture qu'on imaginait comme tranquille. Jusqu'au moment où on aperçoit sur le bord de la petite route de forêt, un homme en short, à genoux, devant un 4x4 de gardes-frontières.
Ils sont en train de l'arrêter et de le menotter. Ouais, ça y est, il embarque. Ils sont en train de l'embarquer, il est menotté.
Putain, ils n'ont pas de main morte.
Hein. Ouais, ils m'ont fait une bonne clé de bras. Malheureusement, non, on peut plus rien faire de là où on est. Ils l'ont foutu derrière la bagnole. On va peut-être attendre que les gens qu'on a prévenus puissent venir. Ouais, ils ont ramassé des affaires et... Ok, bon, il y a l'autre bagnole qui s'est cassée. En fait, il s'est fait arrêter par un mec d'une trentaine d'années. On a vu son visage. Ça devait être soit un militaire, soit un garde frontière. Le jeune était épuisé quand on est arrivé. Il est tombé sur les genoux. Perte d'espoir totale. Et là, bah, en fait, le temps qu'on se prépare pour qu'on puisse voir du monde, il y a déjà une bagnole... qui est arrivé.
Il passe par là, de toute façon.
Et la bagnole. Hop. C'est pas grave, on va y aller. Tiens, fais-lui un signe.
Mais elle nous a vu,
Ouais, et ben on va faire pareil.
Je crois que c'était la voiture.
Donc là, on est en train de bombarder. Il y a Basile qui bombarde pour essayer de suivre. On a croisé la voiture des activistes qui a directement suivi les gendarmes ou les bords de garde. On ne sait pas ce que c'était exactement, donc peut-être que leur but, ça va essayer de négocier, peut-être pas une libération, mais d'essayer d'être observateur, de savoir si ce jeune migrant sera bien traité ou pas. C'est fou, ils étaient là, les activistes étaient là vraiment en 2 minutes. Ok, ça doit être Olga. Hola. Allô ?
Salut Louis, c'est Hanna, je suis de la... Enfin,
salut Hanna.
Ouais, écoute, on voulait juste te demander si vous avez vu s'ils ont pris le mec avec eux ou...
Oui.
Il est dans le...
Ouais, il est dans la voiture.
Il est dans le coffre.
Il est dans le coffre.
Il est dans la voiture,
d'accord. Ouais.
Et dans les coffres ?
Ouais.
Oh putain. On n'a pas pu les suivre parce qu'ils ont tourné dans la forêt, dans une route...
C'est vous derrière nous, là ?
La voiture, hein.
Nous, on est juste devant vous.
Quoi ?
On est juste devant vous, la voiture. Là, c'est nous, ça.
Ah d'accord, Ok, d'accord. Ok, bon, d'accord, on va voir ce qui se passe.
Ok, on roule jusqu'à Bielovesa, on se parque, et puis après, si tu nous tiens au courant, et puis sinon, on fait notre vie.
D'accord, à toutes, merci.
À toutes.
Ok.
Ouais, on va voir tranquillement avec elle ce qu'elle nous dit, on va attendre son message. Ah.
Louis ?
Oui, Anna.
Écoute, on va aller au poste des gardes-frontières. On va vous doubler, donc vous pouvez aller derrière nous.
Ok.
Et
okay.
On va attendre là-bas pour voir si la voiture arrive avec les migrants, d'accord ?
Super.
J'ai vu que vous étiez là-bas, que vous avez vu tout. Ce sera bien que vous veniez avec vous, si ça va pour vous.
Ok.
Ok, donc on vous suit et on vient avec vous, on reste avec vous ?
Oui.
Ouais, on...
Ok.
t'entends très mal. Mais suis-nous, d'accord?
Ok, parfait. Copie.
D'accord, à toutes.
À toutes. Donc là, on est en train de suivre les trois activistes qui sont dans la voiture, vieille Subaru des années 2000, complètement déglinguée. Et ils ont été très, très, très rapidement sur place. Ils ont une capacité de réactivité qui est quand même assez phénoménale. Donc on a prévenu une des leurs par signal pour que ce soit crypté et brouillé, qu'on avait vu justement ce jeune migrant. Et étrangement, la voiture de police s'est arrêtée en plein milieu de la route. Et les deux policiers au bord de la garde ont demandé aux filles pourquoi ils les suivaient. Et ils sont repartis. Donc ensuite, Anna nous a appelé pour nous demander si on avait vu le jeune migrant dans la voiture. Si elle nous a posé la question, c'est sûrement que les gardes frontières leur ont menti, en leur disant que non, il n'y avait rien et qu'ils sont repartis. Donc si elle nous pose la question, c'est qu'elle a un doute, alors que pourtant, il n'y a pas de doute. Nous, on l'a bien vu rentrer dedans. Les bordes de regard auraient dû leur dire, oui, il est là, et puis c'est pas vos affaires. Et puis tout d'un coup, ils ont tourné à gauche de manière soudaine, en plein milieu de la forêt, parce qu'ils ont un énorme 4x4. Ils n'ont pas pu les suivre, et donc là, on va voir les bords de regard.
Je pense qu'il va falloir que tu caches ton micro, on va arriver. C'est assez lunaire de poursuivre une voiture de garde frontière, faut bien se l'avouer. Mais si on veut savoir ce qui va arriver aux migrants, on n'a pas vraiment le choix que de continuer sur notre lancée. On est aussi assez curieux de plonger dans le quotidien des activistes et de voir comment ils gèrent une situation comme celle-là, ce qu'ils vont bien pouvoir négocier avec les autorités locales.
Salut.
Salut.
Toi,
ouais, Louis, enchanté.
Rana, enchanté.
Je suis en train de record.
Ah, oh, d'accord.
Ok, juste pour vous informer, ok?
D'accord.
Je leur dirai.
On va
dire.
Ok. Et vous avez vu qu'ils les mettent dans le coffre?
Oui. De manière vraiment. Tac, comme ça, ils m'ont mis derrière.
D'accord.
Vous avez des photos?
Non.
Non.
Non, non.
Malheureusement, non.
Okay. Mais si jamais on peut dire que vous avez vu ça?
Oui. Ouais.
Il faut aller à l'intérieur et leur demander, déjà. Quand ils sont revenus avec une voiture vide. Je ne vais pas me présenter comme une journaliste. Je vais leur dire que nous avons un témoin et nous voulons savoir ce qui se passe avec le jeune. On peut essayer ça. De toute façon, s'ils ne veulent pas nous dire quoi que ce soit, ils ne nous diront rien, ni maintenant, ni dans une heure.
Oh, ils sont là. Ils arrivent.
Là, il y a la photojournaliste qui s'est approchée. On l'oblige à retourner le dehors. Oui. Elle est devant les deux policiers. Les deux policiers la priment de revenir à l'extérieur. Regarde, elle est rentrée dans l'enceinte, elle a couru. On présume qu'il y a le jeune migrant qui est à l'arrière du 4x4. Donc les activistes sont en train de se placer pour essayer de savoir s'il y a une maltraitance ou pas de l'individu. Ils sont en train de fermer la grille pour qu'on reste à l'extérieur. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de voir, et ils vont sûrement faire une marche arrière, ils vont se placer de manière totalement inconnue, enfin, de manière à ce qu'on ne puisse pas voir la sortie du migrant. Donc voilà, on est 4 ou 5 devant, on est en train d'essayer de documenter. D'accord, ils mettent un... Ils sont en train de mettre quelque chose devant pour pas qu'on puisse voir la sortie du migrant. Ouais, on n'arrive pas à le voir. Donc là, ils sont en train de tout cacher pour éviter qu'on puisse voir justement l'arrestation de ce migrant et savoir comment ils sont en train de le traiter pour être sûr. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus alors là?
Moi je veux parler avec, avec le commandant. Je vais essayer de parler avec lui. Mais on est en train d'attendre parce qu'on va appeler un ombudsman.
Hein?
Ombudsman, c'est... je sais pas comment on dit ça en français. C'est quelqu'un qui aide aux citoyens avec les droits...
Des citoyens,
si,
d'accord.
S'il y a des problèmes avec, justement, avec l'autorité ou des trucs comme ça, t'as toujours une figure dans chaque pays.
D'accord,
ça.
Très bien. Et donc là, il y a le commandant qui est là.
Faire pression. Rappeler aux gardes frontières les bornes légales qui encadrent leurs arrestations. Éviter à tout prix le pushback et amorcer un suivi du jeune migrant. C'est un peu comme ça qu'on pourra résumer le dialogue d'une vingtaine de minutes, très intense, entre autorités locales et activistes. On reprend la voiture et on se dirige vers le petit village où Grupa Granica a élu domicile. Après un quart d'heure de route entre forêt et champs brumeux d'hiver où on aperçoit quelques bisons, on arrive sur un groupe de maisons en bois. Des dizaines de paires de chaussures et de pantalons mouillés tentent de sécher sur la palissade en bois d'une des maisons. De l'équipement de survie et des parkas, et Alexandra qui nous accueille.
Oui, donc, voici ce que dit le commandant. Je rappellerai aux gardes qu'ils ne doivent pas faire comme ça. Mais nous avons ce type de voiture. Nous avons des armes. Et nous ne pouvons pas mettre l'homme à côté des armes.
Apparently he says that some parts of the coffer they have it adapted.
Apparemment, il dit qu'il y a une partie du coffre qui a été aménagée pour transporter des gens. Mais c'était quelle sorte de voiture? C'était une Jeep? OK, d'accord. Une vieille Jeep. Il dit qu'il n'a pas besoin de sièges. Parfois, il y a beaucoup de place dedans. Oui, mais de toute manière, on ne jette pas quelqu'un dans une voiture. Non.
Quoi qu'il en soit, il n'était pas en mesure de s'asseoir. Parce que même s'il avait pu s'asseoir, nous l'aurions vu quand il est arrivé au poste des gardes frontières.
Il a menti.
Soit il a menti, soit il n'était pas dans la voiture.
Oui, de toute manière, nous n'avons vu personne dans la voiture. Ok, je comprends. Katia disait qu'on ne peut juste pas jeter une personne comme ça dans un coffre. Et le commandant répond, je vous comprends, mais vous savez, nous avons une petite guerre ici. Et le commandant croit les gardes frontières concernant les armes posées sur la banquette arrière.
Il pense qu'il est en guerre.
C'est fou. C'est complètement fou.
When we arrive in this direction, in direction to the big city.
En arrivant de la grande ville, à Novka,
we're driving here. We saw at the big.
Nous avons d'abord aperçu quelqu'un s'agenouiller, comme s'il inspectait la voiture. En passant à son niveau, nous avons remarqué que cet homme avait l'air complètement désespéré, inoffensif et faible. On aurait dit un migrant. Sur le moment, nous nous sommes dit, d'accord, nous devons nous arrêter et vous appeler. Et là, on a enregistré. Ensuite, nous sommes revenus sur place. Pendant ces deux minutes avec vous au téléphone, nous avons de nouveau remarqué le garde frontière. Ensuite, d'autres personnes sont arrivées. Ils étaient deux. Ils l'ont mis dans le coffre. Quand nous avons commencé à nous rapprocher, le premier homme, l'homme en civil, a pris la direction opposée. Et à partir de là, vous êtes arrivés par ici.
Il a été arrêté ici et il venait en direction d'Anovka.
Oui, et c'était cette direction.
Le premier homme.
Oui.
L'homme du début. Ok, laisse-moi noter ça. Parce que je vais envoyer différentes informations à l'ombudsman. Donc je dois les noter correctement.
Cool.
deux heures à débriefer les événements de la matinée dans ce qui ressemble fort à une petite ZAD du bout de l'Europe. Il y a les équipes de nuit, les médecins, les spécialistes du droit, les couteaux suisses, beaucoup de jeunes, quelques vieux briscards, et tout ce petit monde est sur le pied de guerre pour défendre une vision de l'humanité, de la morale et du droit. En l'occurrence ici, on ne laisse pas les gens mourir dans la forêt, et on ne les rejette pas du côté biélorusse, quel que soit leur parcours, leur histoire, leurs origines. On aurait bien continué à palabrer avec toute la maisonnée pour essayer de comprendre les motivations de chacun à être venu se perdre ici, mais on a rendez-vous avec un biologiste, Rafał Kowalczyk, sommité international dans son domaine, pour une interview. On reprend la route.
Il y a un an, nous avons trouvé un squelette de réfugié. On cherchait une autre personne, mais nous avons trouvé un squelette. Personnellement, j'ai trouvé deux réfugiés morts dans cette forêt.
How? Just walking in the forest?
Once I had information about that there was a time when
j'avais eu des informations comme quoi il y avait un moment où
not excuse me.
Excusez-moi.
Andrzej, zaraz
oui.
Odzwonię, dobra?
Je suis en interview, je te rappelle plus tard.
There was a time when in autumn 2021 we had few dead.
À l'automne 2021, nous avons eu plusieurs réfugiés qui sont morts. Et après tout l'hiver, nous n'avons eu presque aucun réfugié décédé dans la forêt. C'était étrange.
Suspicious that the bodies are hidden and so on, and one journalist got an information about possibly that refugee.
Nous suspections les corps d'être ensevelis ou enneigés. Un journaliste a eu des informations sur de possibles décès de réfugiés. Et il m'a demandé de vérifier. J'y suis allé avec un collègue, et après des recherches, nous les avons trouvés. C'était devenu une évidence. La police et les gardes-frontières ne pouvaient plus les cacher.
Comment vous avez réagi? Comment vous vous êtes senti?
I know that this is not usual to find a dead refugee, you know that. I mean, especially that.
Je sais que ce n'est pas très commun de trouver des corps de réfugiés. Dans les 24 heures qui ont suivi, j'ai été interrogé trois fois par les policiers.
I had also WhatsApp conversation with the brother of this.
J'ai aussi une conversation avec le frère de ce réfugié.
It's very, you know, emotional for.
C'était beaucoup d'émotion pour moi.
You know. And later on, Afghan refugee.
Il y a un an, il y a eu un réfugié afghan perdu dans la zone strictement protégée.
And they also called me just to help with the searching. There was the night.
Ils m'ont appelé pour aider aux recherches. J'étais seul avec les enfants, donc je n'ai pas pu y aller.
And my colleague went to the forest in the night to the strictly protected.
Mon collègue a été dans la forêt de nuit, à pied sur plusieurs kilomètres, puisqu'on ne peut pas y accéder en voiture.
Not enter the car. They did not find him, and next day we went to search for him, and we were stopped by.
Ils ne l'ont pas trouvé.
National Park.
Le lendemain, nous sommes partis à sa recherche, et nous avons été stoppés par les gardes forestiers, qui ne nous ont pas autorisés à explorer la zone.
And then we searched for this Afghan for nearly 3 weeks. Later on, and
nous avons continué à chercher cet Afghan pendant presque 3 semaines. Nous l'avons trouvé au bout d'un mois, mort bien sûr. Dans cette forêt humide. Après ça, c'était le troisième corps que j'ai pu voir. Ça a été traumatisant pour moi. Quand je suis revenu à la maison, j'ai beaucoup pleuré. Je me sentais coupable parce que nous savions qu'il était encore vivant quand nous l'avons recherché dans la forêt. On pouvait sauver sa vie.
But later on, we are only searching for the body just to.
Mais après ça, nous étions juste à la recherche du corps pour que la famille sache ce qui lui était arrivé. Il devrait être enterré et pas mangé par les animaux dans cette forêt. C'est tout à fait normal qu'un corps resté plusieurs semaines dans la forêt soit mangé par les charognards.
Mm-hmm. And there was already few bodies like this which were eaten by scavengers, you know, in the forest, you know. So this is very
C'est très très traumatisant. Et c'est... Vous savez, tous les jours, ma femme travaille comme humanitaire pour une organisation qui aide les réfugiés. Chaque jour, dans notre maison, c'est comme un magasin avec tout le matériel nécessaire pour les réfugiés. Souvent, ma femme et moi allons dans la forêt pour aider les réfugiés.
On avait pas mal de questions pour Rafao, sur la forêt, les animaux, l'environnement. Évidemment, en tant que directeur de l'Institut botanique de Białowieża, on s'attendait un peu à ce qu'il soit prolixe sur la question. Mais voilà, comme beaucoup de gens ici, il a laissé sa vie normale derrière lui. Et la discussion a très vite basculé sur la catastrophe migratoire. On n'était pas vraiment préparé à l'entendre nous parler des corps retrouvés un peu partout dans la forêt, même si les précédentes journées nous avaient déjà mis dans le bain. On était donc là, à l'écouter, et comme beaucoup d'histoires un peu trop brutales pour être intégrées du premier coup, il nous a fallu un peu de temps avant de digérer ce petit huis clos dans la voiture. On l'a donc laissé parler, en spectateur effaré.
C'est vraiment une période très difficile pour nous. Ce mur à la frontière a un impact sur la vie sauvage. La nature, sur la crise humanitaire, sur l'approche que notre gouvernement a vis-à-vis des réfugiés, particulièrement le précédent gouvernement. Cet endroit magnifique que nous aimons, où nous avons décidé de vivre avec ma femme. Elle vit ici depuis 20 ans, et moi depuis 30 ans. C'est l'endroit où nous pouvons croiser des êtres humains qui souffrent, des morts. Ça influence beaucoup la perception que nous avons de cette forêt.
Je l'aime encore, vous savez. But my thoughts are sometimes different than.
Je l'aime toujours, mais mes pensées sont parfois différentes que lorsque j'étais concentré sur la vie sauvage. Que je me déplaçais silencieusement pour observer la vie sauvage, différentes espèces. Maintenant, je pense souvent aux réfugiés. À chaque marche dans la forêt. Vous trouvez leur camp. Des bouteilles en plastique, des vêtements, des chaussures qu'ils ont perdues. J'ai vu des enfants, vous savez, des enfants très jeunes dans cette forêt. Nous avons rencontré deux familles irakiennes au début de la crise. C'était en octobre, il faisait froid. Ils étaient pleins de saleté. Ils avaient marché dans cette forêt très humide. Et il y avait des enfants de 10 mois, 12 mois, 2 ans, 8 ans et 9 ans. Vous savez, c'est très traumatisant. Oui, c'était en octobre. Un octobre très froid. C'était traumatisant parce que j'ai également deux filles de 8 ans, vous savez. Et je ne peux clairement pas imaginer de les prendre pour aller dans la forêt. Marcher dans la forêt. De dormir dans la forêt, de souffrir dans la forêt, d'être gelé, d'être chassé et affamé. La majorité de ces gens viennent de climats chauds, de zones désertes ou semi-désertes, et ils atterrissent dans cette forêt froide et humide, qui est un environnement hostile pour eux. Ils ne savent pas comment survivre ici. C'est tellement traumatisant. Bien sûr, des gens demanderont toujours, mais pourquoi franchissent-ils le mur? Pourquoi viennent-ils dans la forêt? Mais parce qu'ils cherchent une vie meilleure. Ils ne peuvent pas avoir le visa. Et aller dans les pays où nous, Européens, vivons. Ils ne peuvent pas avoir le visa. Donc ils doivent franchir la frontière illégalement, à la recherche de cette vie meilleure pour leurs enfants. Il y a des enfants ici qui sont nés pendant des conflits. En Syrie, par exemple. Pendant la guerre. La seule vie qu'ils connaissent, c'est la guerre.
Ils n'ont pas choisi.
Nous ne pouvons pas nous demander pourquoi ces gens veulent rejoindre l'Europe. Ils veulent juste une vie meilleure. Ces 20 dernières années, des millions de Polonais sont partis vers la Grande-Bretagne, vers les Pays-Bas, la Suède et les États-Unis. Pas à cause de la guerre. Ils sont partis parce qu'ils voulaient une vie meilleure. Pourquoi sommes-nous surpris que des gens originaires de Syrie, d'Afghanistan, du Yémen, de Somalie, d'Érythrée, puissent vouloir une vie meilleure, une vie normale? Oui, c'est triste.
Merci pour cet échange très fort.
C'était vraiment chargé en émotions.
Yeah, this is, you know, I mean, media, they have very important role.
Les médias ont un rôle très important.
This is a news by news, you know, that there's, you know, people next day forgot about news.
Je sais qu'il y a énormément de nouvelles et que les gens le lendemain ont déjà oublié ces nouvelles de la veille.
When we had a logging of the...
Mais quand les choses ont commencé ici, dans la forêt de Białowieża, le rôle des scientifiques a aussi été d'informer les médias internationaux pour que les gens sachent ce qui se passait. Et peut-être que grâce aux médias, quelqu'un réfléchira à l'attitude qu'il a vis-à-vis des réfugiés. Ma femme a des contacts avec la majorité des organisations humanitaires ici. Et il n'y a pas le moindre cas où un réfugié s'est avéré dangereux pour nous, pour ceux qui aident. Ma femme se rend parfois seule en tant que femme dans la forêt pour aider, je ne sais pas, 8 hommes par exemple. Ce ne sont pas des terroristes. Ou des gens qui transportent des maladies ou des parasites, comme le disait le précédent gouvernement. Ils sont vraiment pauvres, ils ont faim, ils souffrent et ils meurent souvent. Ils ont besoin d'aide et on peut faire ça. On peut les aider. C'est la seule chose que nous pouvons faire. Nous restons en contact avec les gens que nous avons aidés.
How they look like after being, you know.
Et nous voyons comment, après être arrivés à destination, pour fonder une famille, parfois en Allemagne ou aux Pays-Bas. Ce sont des gens totalement différents. Souriants. Ils ont l'air vraiment d'aller mieux. Et pas dévastés, en souffrance, comme quand ils se sont retrouvés dans cette forêt. Quand vous voyez une image comme ça, vous pouvez vous dire que ça valait le coup d'apporter de l'aide. Particulièrement avec le précédent gouvernement, cette aide n'était pas reconnue comme quelque chose de bien. Ils nous appelaient les traîtres, les idiots. Même le président utilisait ces mots.
Very difficult, you know, for
c'est très difficile pour nous.
Majority of people which are helping, they
la majorité des gens qui essayent d'aider ont des syndromes post-traumatiques.
Traumatic experience, you know, to see the people in the forest.
Parce que c'est une expérience si traumatisante de voir des gens dans la forêt, vous savez.
This is
c'est très difficile.
You know, so you can every day go to your warm home, you know, and enjoy.
Vous pouvez tous les jours aller dans votre maison bien chaude et profiter de votre repas chaud. Eux, ils passent parfois des semaines dans cette forêt.
Even you don't need to.
Il n'y a même pas besoin de température négative.
2-3 degrees.
2 ou 3 degrés dans la nuit quand vous êtes mouillé. Vous gelez. Vous mourrez.
So, you know, we so far there was 50 few people found dead.
On a retrouvé une 50aine de personnes décédées le long de la frontière. Mais près de 300 sont portés disparus. Nous savons que nous allons retrouver les restes de certains d'entre eux dans le futur. Ce n'est pas bon. Cette forêt, qui est unique, ne devrait pas être un lieu de souffrance pour les êtres humains.
Yeah.
Oui.
Okay.
Yeah. Yeah. Okay, thank you.
Thanks very much. Thank you so much.
Quelques jours après notre arrivée en Pologne, on tente de démêler les fils de ces destins qui s'entrecroisent. Les activistes et leur dévouement, les rescapés du bout du monde et les monsieur madame tout le monde pris dans le tourbillon. On commence nous-mêmes à comprendre comment ce lieu peut vous happer et devenir une obsession. Chaque protagoniste est marqué différemment et définitivement par son passage ici. Chaussez vos bottes. Dans le prochain épisode, on vous prépare une balade en forêt que vous n'êtes pas prêt d'oublier.
Vous venez d'écouter Garçon Sauvage, saison 2, dernier passage. Une série de podcasts en 4 épisodes, diffusée par Blast. C'était le 2e épisode, dans le quotidien des activistes. À la réalisation, Basile Crespin, Louis Lemaire de Pas et Chanel Foll. Travail journalistique et production éditoriale, Basile Crespin et Louis Lemaire de Pas. Enregistrement et post-production, Chanel Foll. Doublage des voix françaises, Sandy Le Foll, Benjamin Louis, Basile Crespin et Louis Lemaire de Pas. Une production Garçon Sauvage, en partenariat avec César Musique.